enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je lui dis, oh, tu lui dis. La Bible dit que les quatre êtres vivants disent en permanence, digne es-tu d'être remercié, loué et adoré. Pour tout ce que tu es ma lumière. Tu es saint, 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 magnifique en sainteté. Digne de louange, digne d'être remercié, loué et adoré. Tu dis, digne es-tu, agneau, agneau de Dieu, tu es digne. Personne n'est comme toi, personne ne peut se comparer. En beauté, en gloire, en splendeur, en connaissance, en omnipotence, en omniscience, en sagesse, en intelligence, en amour, en miséricorde, personne ne peut se comparer, personne ne peut t'égaler. Où l'on dit que tu es digne, es-tu digne d'être remercié, loué et adoré. Voilà pourquoi nous chantons ce soir. Ah, allez, ça veut dire gloire à ton nom, gloire à toi, agneau qui est sur le trône, nous t'adorons, tes attentes, nous célébrons ta gloire, et nous disons chantons, avec les anges nous chantons, et disons louange au roi, louange à sa majesté, tu es plus que vainqueur. Seigneur, maintenant c'est ma déclaration, je me prosterne pour lui dire Seigneur, Seigneur, tu es, vous les chantez avec moi, entends simplement ces paroles, c'est l'expression de ma prière, Seigneur, tu es, entends mon cri, et même si ce n'était pas vrai, Seigneur, je prie que ça devienne vrai en moi, Seigneur, Seigneur, à jamais sois plus beau. Que jamais quelque chose ne fasse compétition à ta gloire, à ta splendeur dans ma vie. J'ai dit Seigneur, à jamais, je dis, sois à jamais tu es Seigneur, à jamais. Alors que je puis dire, comme les 24 heures, je me prosterne et je reconnais que tu es. Sois à jamais Jésus-Christ. Personne ne doit se comparer, personne ne doit t'égaler sur le trône de ma vie. Devant toi seul, je me prosterne en moi. Devant toi seul, Seigneur, à toi seul je rends un culte qui t'est agréable. Et toi, rien, rien, non, 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 non. Seigneur, Seigneur, tu es, Seigneur, tu es. Que cela soit établi, que cela se manifeste dans ma vie. Si ce n'est pas vrai encore, alors imprime-le en moi. À jamais, sois à jamais, sois plus précieux que l'or, que tous les salaires du monde, que toutes les propositions alléchantes et indécentes. Seigneur, s'il te plaît, sois plus beau que le diamant dans mon cœur, Seigneur, que personne ne prenne ta place, que rien ne prenne ta place. Je dis, s'il te plaît, entends ma prière, reçois-la comme une supplication. Seigneur, alors que tu peux venir tout simplement. À jamais, Seigneur, à jamais, plus précieux que l'or, que l'or, que tout l'or du monde, Seigneur, 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 plus beau que le diamant, et que rien ne se compare. Notre prière, te supplions. Tu as dit que ta création t'adore, que la création se prosterne devant ton marchepied. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Je veux te dire ce soir que tout ce qui est en moi, moi et ma maison, moi et tout ce qui est sous mon autorité, moi et ma postérité, qu'à jamais nous nous prosternions devant toi seul, et à toi seul nous rendrons un culte.
par ta grâce et par ta miséricorde, Seigneur. Sois le seul adoré. Que rien ne se compare à toi. Que rien, Seigneur, n'ose se comparer. Rien n'ose se dresser prétentieusement contre l'adoration qui t'est due. Ne laisse pas un seul souci. Ne laisse pas une inquiétude d'injurier. Ne laisse pas l'arrogance et la haine. Ne laisse pas le manque de pardon injurier ta sainteté. Saint, 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 tu es. Que tout en moi, que tout dans cet auditorium reflète ta sainteté, rayonne ta sainteté, resplendisse ta pureté à jamais.
Peut-on acclamer le Seigneur pour nous-mêmes et pour l'expression d'impact aussi, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.
Dieu ordonne que je règne. Pas parce que je suis le meilleur, parce que je suis son fils. Une souris n'accouche pas. Comment j'ai dit ça la fois dernière? Un chat n'accouche pas d'une souris. Voilà. Un chat n'accouche pas d'une souris. Un roi n'accouche pas d'un trouillard ou d'un troufion ou d'un morpion. Un roi accouche d'un roi. Et il est le roi, donc je suis roi. Quelqu'un qui influence, qui éclaire. La Bible dit qu'il est le soleil de justice. Il éclaire l'univers. Donc je dois éclairer la terre. Dis quelqu'un qui dit amen à ça. Nous ne sommes pas là, nous ne venons pas à l'église pour chanter, danser. Non, nous venons à l'église parce que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence. Et lorsque nous sortons d'ici, c'est pour aller influencer la société. On m'a dit qu'il y a encore mon nom, Seigneur Jésus, mon nom là, vraiment. Non seulement il y a eu. Alors, vous avez, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'on a eu un article dans le journal Le Monde. C'était quand? C'était jeudi. Hein? Jeudi, article dans Le Monde. Et là, il paraît qu'on est encore dans Amen Magazine. Un magazine chrétien. Un journaliste m'a appelé pour me demander ce que vous pensez. Alors, il a pris un noir, un arabe, un français, et puis je ne sais pas quoi. Puis il fallait un quota pour chacun. Donc, il m'a dit, bon, pour les noirs, c'est toi qu'on a choisi. J'ai dit, ok, si vous voulez. L'objectif, c'était de m'interroger sur le chrétien et la politique. Et puis, il m'a posé la question, est-ce que faire de la politique pour un chrétien, ce n'est pas diabolique? Puisque c'est encore des clichés qu'il y a dans la religion. Est-ce que faire la politique pour un chrétien, ce n'est pas diabolique? Moi, je lui dis, c'est la question qui est diabolique. C'est la question qui vient du diable même. Oh, quelqu'un dit amen à ça. On a voulu nous écarter de certaines sphères. Non, le règne de Dieu, c'est l'influence prédominante, la prépondérance absolue de Dieu, de sa pensée, de ses valeurs, de ses standards dans toutes les sphères d'influence. Dans toutes les sphères d'influence. Tout le monde n'est pas appelé dans la politique, mais on a rendu complexés les chrétiens qui voulaient s'investir dans la politique en leur disant c'est le diable, c'est pas de Dieu. Mais regarde, et voilà maintenant après, nous sommes tous les premiers à se plaindre, à s'apitoyer en disant c'est pas juste, on sait pas pour qui voter, on sait pas comment faire. Mais c'est parce qu'on n'a rien compris. C'est nous qui devons conduire le monde et changer le monde. Pas parce que nous sommes les meilleurs. Pas parce que nous sommes les meilleurs. Le règne de Dieu n'est pas établi, excusez-moi de vous le dire quand même pour le repréciser, le règne de Dieu n'est pas établi parce que les gens lisent la Bible. Même si on lisait la Bible à l'Assemblée nationale, ça ne veut pas dire que le règne de Dieu est manifesté. C'est pas vrai. Le règne de Dieu n'est pas manifesté parce que, vous savez, aux États-Unis, on lit, on prête serment sur la Bible. C'est pas ça. C'est pas une manifestation du règne de Dieu. C'est pas une manifestation parce que quelqu'un peut mettre sa main sur une Bible et puis quand il sort de là, il ment comme un. Comment on dit? C'est quoi l'expression? Voilà, il ment comme il respire. Non, ça sert à rien, c'est pas ça le règne de Dieu. Le règne de Dieu, Dieu ne règne pas. Combien même, si toute l'île de France, si tous les habitants, les 11 millions d'habitants de l'île de France vont à l'église tous les dimanches, ça ne veut pas dire que le règne de Dieu est établi. Ça ne veut pas dire que le règne de Dieu est établi. Parce que lorsque Constantin, en l'an 72, a décidé que tout son royaume, dans l'Empire de Rome, dans l'Empire romain, tout le monde devait devenir chrétien, les églises traditionnelles, c'est comme ça qu'est né le catholicisme en fait, c'est après ça. Toutes les églises ont été remplies parce que les gens n'ont pas le choix. C'est le roi qui édicte les standards, c'est le roi qui fait ce qu'il veut. Le roi impose sa volonté souveraine, tout le monde s'y soumet. Et lorsque Constantin a dit maintenant tout le monde devient chrétien, tout le monde est parti à l'église, enfin dans ce qu'ils appellent l'église. Mais est-ce que le règne de Dieu est établi? Non. Donc le règne de Dieu n'est pas établi parce que tout le monde va à l'église. Le règne de Dieu est établi parce que la parole de Dieu commence à influencer le comportement des gens, dans la société et dans l'église. Là, le règne de Dieu devient établi dans un environnement. Alléluia. Et le règne de Dieu est établi quelque part. Établi dans un environnement. Il est établi en moi, d'accord. Mais lorsque le règne de Dieu est établi dans la société, ça ne veut pas dire que dans la société, tout le monde a accepté le Seigneur Jésus. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Lorsque le règne de Dieu est établi dans la société, ça veut dire que dans la société, les lois, les principes, les valeurs, les standards deviennent influencés par la parole de Dieu. Lorsque le règne de Dieu est établi dans l'éducation, et ça s'accomplira un jour par la puissance de son esprit. Lorsque le règne de Dieu est établi dans l'éducation, qu'est-ce que vous avez? Par exemple, vous avez tous les adolescents qui aujourd'hui, dès 10 ans, même avant, ils commencent à chercher déjà une fille, une copine. Hein? Tu vois des enfants, même quand à 6 ans, ils jouent entre eux, ils disent des choses, des gros mots. Tu dis ça à ma fille, je t'impose les mêmes petits. Lorsque dans les écoles, vous allez avoir des gens qui à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, jusqu'à 20 ans, 25 ans, disent, tant que je ne suis pas marié, je ne couche pas. Ça, c'est l'influence du règne de Dieu. Que quelqu'un dise amen. Voyez, si la parole de Dieu n'influence pas le comportement des gens, lorsque dans le sphère politique, lorsque dans le monde politique, vous allez avoir des politiciens qui vont maintenant marcher dans les valeurs de droiture, d'intégrité, de pureté, lorsque vous aurez des gens qui sont fidèles à leur femme et qui ne trompent pas leur femme et qui veulent être élus président. Oh Seigneur Jésus. Lorsque ça sera établi, alors le règne de Dieu va commencer à être manifesté même dans les sphères politiques. Lorsque dans les sphères médiatiques, vous allez voir qu'on n'aura plus à 22h des films XX à la télévision, mais on aura des hymnes à la gloire de son nom, où on aura simplement des programmes éducatifs qui enseignent les gens à respecter, qui enseignent les enfants à honorer leurs parents. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de briser le joug de la malédiction, même si tout le monde n'est pas converti, mais lorsque les jeunes commencent à honorer leur père. Parce que la Bible dit que lorsque la Bible dit de Jean-Baptiste que lorsqu'il reviendra, lorsqu'une des missions de Jean-Baptiste qui précédait Jésus, c'était de ramener les cœurs des pères vers leurs enfants, de peur que le pays ne soit frappé de malédiction. Ça veut dire que lorsque les jeunes, qu'ils aient raison ou tort, se rebellent contre les parents, il y a la malédiction qui vient sur le pays. Alors, lorsque vous mettez en place des systèmes dans la société où les gens, les jeunes gens, commencent à respecter et à honorer leurs parents, le règne de Dieu est en train d'influencer, est en train de se répandre dans la société. C'est pas parce qu'on va à l'église, c'est parce que la parole de Dieu commence à influencer notre comportement, nos actions, notre attitude. Là, le règne de Dieu est en train de se répandre. Et c'est lorsqu'il y a suffisamment de gens dont le témoignage est droit, dont le témoignage est pur, dont la lumière resplendit, lorsque les chrétiens vont commencer à devenir nombreux dans la politique, nombreux dans les médias, nombreux dans l'économie, nombreux dans la science, nombreux dans tous les domaines, lorsqu'ils vont commencer à se multiplier, c'est là qu'ils vont être capables, parce qu'ils le vivent d'abord en eux, c'est là qu'ils vont être capables d'influencer leur environnement afin que les gens aillent vers eux et leur disent, les gars, c'est quoi votre secret? Il y a un fossé entre vous et nous. Qu'est-ce que vous avez? C'est là où nous leur dirons, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ce règne dont je parle. C'est ce règne, c'est de ce règne dont Jésus a parlé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors qu'est-ce qui se passe lorsque ce règne, lorsque cette influence, lorsque cette souveraineté, lorsque cette suprématie de la parole de Dieu commence à influencer la société? Vous allez vous rendre compte que soudainement, il y a dans la société une odeur d'unité. Il y a une odeur d'amour qui est véhiculée. Il commence à y avoir des valeurs de sainteté, de pureté, d'abstinence avant le mariage qui commencent à influencer le comportement des gens. Voilà pourquoi Jésus a dit, priez d'abord, ne prie pas pour ton mari, ne prie pas pour ta femme, ne prie pas au Seigneur, mon enfant est violent. Jésus dit, prie d'abord pour que mon influence prévale. Parce que si mon influence prévale, le comportement de ton enfant fera forcément changer. Si mon influence prévaut, l'homme que tu cherches là, l'homme là, si l'influence de Christ prévaut, cet homme c'est fini. Il va se conformer à la parole de Dieu, il va devenir un homme qui aime et qui ne frappe pas sa femme, il va devenir un homme fidèle, cette femme va devenir une femme qui se soumet à l'autorité de son mari, ça veut dire qu'il se place sous la mission simplement de son mari. Donc l'unité, le bonheur, tout est là lorsque son influence est là. Alléluia. Tu n'as plus de problème de mariage. Et en fait, l'enjeu même du combat spirituel est de là. Empêcher l'influence de Dieu. Le diable n'a pas peur que tu ailles à l'église. Mais parce que tant qu'à l'église, on va pour la religion. Tant qu'on entend des choses qu'on n'est pas capable de mettre en pratique. Tant qu'on entend des choses qui ne nous changent pas, qui ne nous transforment pas, qui ne nous conforment pas à Christ, le diable n'a pas peur. Il dit, allez-y. Il n'a pas peur, nous devons comprendre, il n'a pas peur que les églises soient remplies. Il a peur que le Saint-Esprit commence à transformer les gens qui vont à l'église. Là, il a peur. Parce que c'est pour ça que là où les gens sont en train d'être transformés, ils combattent. Alléluia. Jésus a dit, allez, faites des nations des disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Lorsque nous allons commencer à enseigner ce que Christ a prescrit, et que ce que Christ a prescrit va devenir standard, va devenir mode de pensée dans la société, que se passera-t-il? Alors la bénédiction de l'Éternel vient sur le pays. Alors la bénédiction de l'Éternel vient sur la jeunesse, elle vient sur les foyers. Vous n'entendez plus parler de divorce, vous n'entendez plus parler de chômage. Pourquoi? Parce que les principes du royaume de Dieu sont ceux qui prévaut même dans les entreprises. Les lois du royaume de Dieu commencent à influencer, les lois de diligence, de productivité, de discipline, de soumission. Tu n'as pas quelqu'un qui n'a pas créé son entreprise et il va dans la boîte de quelqu'un parce qu'on lui dit on te diminue ton salaire ou parce qu'on fait « Ouais, je proteste, je ne crains » pendant 40 minutes, il est en train de tuer l'entreprise de quelqu'un alors que ce n'est même pas lui qui a créé cette entreprise. Toi, lorsqu'il y a tout ça là, il y a le désordre. C'est la cacophonie, c'est le désordre. Ce n'est pas le règne de Dieu ça. Et lorsque les hommes, lorsque dans la société commencent à prévaloir les principes de diligence, les principes de productivité, les principes de discipline, les principes économiques, parce que dans le royaume de Dieu, il y a des lois, que quelqu'un dise des lois. Le royaume fonctionne avec des clés. Et lorsque ce sont ces clés qui sont utilisées dans toutes les sphères d'influence, alors le pays prospère. Alors vous n'avez pas de problème de chômage. Alors vous n'avez pas de problème d'agriculture. Il n'y a pas de sécheresse dans la terre. Il y a la sécheresse dans l'agriculture parce que les hommes ne respectent pas ce que Dieu dit. Et en parcourant Deutéronome, je me suis rendu compte que Dieu a dit à son peuple, lorsque vous allez aller dans le pays que je vous donne, vous allez travailler 6 ans. La 7e année, vous laissez la terre se reposer. Parce que j'ai travaillé 6 jours, je me suis reposé le 7e jour. Laissez se reposer. Alors les hommes, ils disent, mais si on laisse se reposer, on n'aura plus de récoltes. Dieu dit non, écoutez, c'est moi qui ai créé la terre, c'est moi qui sais comment elle doit fonctionner. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Tout comme quand Dieu dit, écoute, donne 10% de ton salaire. C'est ce qu'on appelle la dîme. Donne 10%. Les gens disent, mais comment tu peux donner 10% et puis, comment tu peux donner 10% et puis, si tu donnes 10%, tu vas en manquer, tu vas avoir des problèmes. Non, ça c'est la mentalité du monde. Ce n'est pas la mentalité dans le royaume de Dieu. Dieu, lorsqu'il dit donne 10%, si avec 10% tu manques parce que tu as donné 10%, je t'assure que même si tu as 110%, tu vas vivre dans le manque aussi. Même avec 120%, tu vas galérer. Parce qu'on ne mange jamais tout. Un agriculteur ne mange jamais toute sa récolte. Il prend toujours une partie, il prend une partie, il prend le fruit, il mange, il y a toujours une partie qu'il remet dans la terre. Il n'y a que nous qui avons suffisamment de bon sens et d'intelligence mathématique pour tout prendre et tout manger. Et après, on s'étonne de ce qu'il y a la sécheresse. Sécheresse dans les finances, sécheresse dans les foyers. Pourquoi? Parce que les lois du royaume de Dieu ne sont pas appliquées. Dans la santé, les lois du royaume ne prévalent pas. Parce que nous savons tous que pour être en bonne santé, il n'y a pas besoin de se shooter aux médicaments tous les jours. Il y a juste besoin d'observer les lois de Dieu. Ne hais pas ton prochain. Aime. Sois dans la joie. Quand quelqu'un est dans la joie, dans la paix et dans l'amour, et qu'il marche donc au quotidien, comment il fait pour avoir des ulcères? Comment il fait pour avoir des crises gastriques? Comment il fait pour avoir des cancers? Comment il fait? Ça ne rentre pas. C'est pour ça que la Bible dit barricade ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que viennent, c'est le laboratoire de fabrication de ta destinée. C'est le laboratoire de fabrication de ta vie. Garde ton cœur, protège-le. Tout vient de là. La parole, avant que la maladie ne produise, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit rentré, une parole qui vient du diable et qui ait mis la confusion. C'est comme quand quelqu'un met de l'eau dans le réservoir d'essence. Mais tu crées un court-circuit. Tu crées un dysfonctionnement. C'est pour ça que Dieu dit aime. Dis à toi, aime. Tu dis, moi, je suis comme ça, on m'a fait trop de mal. Non, quand Dieu dit aime ton prochain comme toi-même et aime-moi, c'est pas parce que si tu ne l'aimes pas, il se sent sur le monde. C'est pas pour ça. Quand Dieu dit aime, c'est parce qu'il sait que l'environnement dans lequel tu es comme moi, tu me ressembles, tu es ma photocopie. Moi, j'opère dans l'amour, je n'opère pas dans la haine. Même quand je suis fâché, je suis obligé d'aimer. Parce que tu as remarqué que lorsque tu n'aimes pas, tu n'es plus créatif. Tu n'es plus inventif. Lorsque tu n'aimes pas, tu commences à avoir le... Hey, y a des gens quand ils parlent. Rien que quand ils t'adressent la parole. Tu sens déjà les joues commencent à bouger. Tu sens la haine, l'ouragan, et puis là, tu... Wah! C'est toi que tu es en train de détruire. Et tant que tu marches dans l'amour, vous devez comprendre, quand un incroyant aime son prochain, marche dans l'amour, marche dans la crainte de Dieu, parce qu'il y a des païens qui marchent dans la crainte de Dieu. Regardez Corneille, il ne connaissait pas encore le chemin, mais c'était quelqu'un qui s'en rapprochait et un jour Dieu lui a montré le chemin. Que quelqu'un dise amen. Ouais, on croit que des fois, il y a des incroyants qui, en termes de témoignage, vivent mieux que certains croyants dans l'église. Il y a des incroyants quand même, même s'il n'est pas converti, au moins, il n'utilise pas sa bouche pour prononcer des malédictions sur la terre entière. Toi, tu viens à l'église, tu utilises ta bouche toujours pour donner une mauvaise nouvelle et des commérages, des critiques, toujours. Radio mauvaise nouvelle, c'est toi. Radio commérage, c'est toi. Dès qu'il y a une rumeur dans l'église, c'est toujours toi qu'on entend. Non! Il y a quelqu'un dehors, lui au moins, il sait fermer sa bouche parce qu'il a compris le pouvoir de la langue. Mais vous croyez qu'il n'y a que les chrétiens qui ont compris ça? Non, c'est un principe. Dehors, les gens ont compris le pouvoir de la langue. Il y a des gens qui ont compris le pouvoir de la langue. Donc, ils font attention. Donc, résultat, ils n'ouvrent pas de porte. Ils n'ouvrent pas de porte au diable. Le diable ne les touche pas. Moi, je croyais avant que tout païen, tout non converti, était possédé par des démons. Ce n'est pas vrai. Mais comme on est pentecôtiste, ils croient que tout... Donc dès qu'ils arrivent, donc dès que tu viens pour la première fois, ah, tu viens pour la première fois, viens ici, au nom de Jésus. Non, des fois, il n'y a pas de démons. Des fois, il n'y a pas de démons. Il y a des démons parce qu'il y a des portes qui ont été ouvertes. Les liens de malédiction héréditaire. Oui, des fois, il y a des démons, mais il n'y a pas toujours des démons. Quelqu'un dit amen. Le règne de Dieu, lorsqu'il se répand, c'est ce qui s'est passé à Canaan, lorsqu'il se répand, Dieu vient s'installer. Dieu vient s'installer dans le pays. Et alors là, la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Parce qu'on sent que dans tous les domaines, hier, les adolescents étaient violents. Mais à force de répandre l'influence de Dieu, d'abord par la prière, on dépollue l'atmosphère. Et ensuite, en sortant d'ici, on va toucher les jeunes. Vous allez vous rendre compte que la violence disparaît. Là, alors, le règne de Dieu est établi dans la ville, dans la famille, dans le quartier, dans le pays, dans la région, dans le continent. Jusqu'aux extrémités de la terre. Que quelqu'un dise avec moi que ton règne vienne. Et c'est pour ce règne-là, c'est pour cette cause que les disciples se battaient. Enfin, battaient, pas physiquement, mais en tout cas, ils se battaient verbalement. Si vous allez dans Matthieu 20, verset 20, il y a un passage où les fils de Zébédée, la mère des fils de Zébédée vient voir Jésus et dit, s'il te plaît, rends-moi un service. Quand tu seras dans ton royaume, est-ce que tu peux permettre qu'un de mes fils soit à ta gauche et l'autre à ta droite? Elle commençait à négocier les positions avant même que le gars ait manifesté le règne. C'est un peu comme si aujourd'hui les gars autour de Sarkozy, Bayrou ou les autres, ou Royal, se commençaient déjà à se battre. Moi, je vais être ministre de l'Intérieur. Mais attendez d'abord que les élections soient finies. Attendez d'abord qu'elles gagnent. Aïe, 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 aïe. Et ils ne se battaient, ils ne se querellaient pas pour une religion. Ils ne se querellaient pas parce que le christianisme allait venir. Non, ils avaient déjà le judaïsme. Pourquoi voulez-vous qu'ils passent, ils passent au christianisme? Non, ils se battaient pour des places. Tous les disciples étaient choqués. Mais comment vous commencez à négocier les places avant que nous on arrive? Attendez d'abord que le règne soit manifeste. Et puis après, maintenant, Dieu va faire ce qu'il a envie de faire. Pourquoi est-ce que tu négocies le poste de ministre de l'économie dans le royaume de Dieu à Jérusalem alors que nous on est là, les gars? Non, on n'a pas le droit. Personne ne va attendre tous aller au même moment. Ils se battaient pour ça. Ils ne se battaient pas pour la fondation d'une religion. Ils n'ont pas suivi Jésus espérant une religion. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils savaient que le temps allait venir où un règne allait être manifeste sur la terre. Et Dieu cherche des gens avec qui il va régner, il va gouverner. 2 Timothée 2, verset 12 dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Et un jour, dans Jean chapitre 6, verset 14 à 15, dès qu'ils ont vu des miracles, les disciples, la foule qui entourait Jésus était certaine que c'est de cette personne-là que parlaient les prophètes. Parce qu'ils avaient dit, viendra un jour où il va régner, où Rome va être, l'Empire romain va être dissous, où une domination va s'établir sur toute la terre. Et il dit, c'est une domination qui ne connaîtra pas de fin. Son règne sera un règne éternel. Et la Bible dit dans Jean chapitre 6, eux, ils voulaient le faire par la force. Donc, tu es capable de résister à mort, capable de parler à la tempête, donc c'est lui le roi. Ouais, viens, tu seras notre représentant. Alors, mais quelqu'un qui peut ressusciter des morts, qu'est-ce qui l'empêche de se lever, de marcher à Jérusalem? Et marcher à Jérusalem, il renverse Hérode, après il monte à Rome, il renverse César. Il suffit de regarder juste César, le papa César, mais l'empereur romain, il le regarde droit dans les yeux, et puis l'empereur tombe. Qui va lutter avec lui? Et eux, ils s'attendaient à un coup d'État. Ils ne s'attendaient pas au christianisme. Dis encore à voisin, Dieu ordonne que je règne. Est-ce que vous vous rendez compte que cet instinct de la domination, c'est ce que Dieu a mis en l'homme, pensant? C'est ce qui est ancré dans les gènes de l'homme. C'est ce qui fait qu'aucun homme n'a envie d'être écrasé par un autre homme. C'est ce qui fait qu'un homme sent en lui le désir de conquérir. Les seuls qui n'ont pas cet instinct de la domination, ce sont les chrétiens, les religieux. Eux, ils ont juste l'instinct d'aller au ciel. Évacuation de la terre immédiate. Or, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de sonder, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu cache les choses. En réalité, les inventeurs, les chercheurs ne créent rien. Ils inventent, ils ne créent pas. Parce que tout est déjà sur place. Tout est déjà sur la terre. Ils ne font que trouver et puis essayer de mettre ça ensemble. Ah, ça marche. Ils ont juste inventé, ils n'ont pas créé. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher. Dieu cache. Et la gloire des rois, c'est de sonder, ça veut dire c'est de fouiner et de découvrir les choses que Dieu a cachées. Ce sont les rois qui découvrent les choses. Donc normalement ce sont les enfants de Dieu qui devraient être derrière les plus grandes inventions. Personne ne dit amen. Tu es tellement loin de cette réalité. Les autres ils créent leurs trucs, ils inventent leurs instruments. J'ai découvert en Guadeloupe, il y a des instruments. Il y a un instrument qui a été inventé à Trinidad, à Tobago. Un super instrument, le gars il joue avec passion comme ça. Je croyais que, tu vois, quand tu es ici, tu as l'impression qu'il n'y a que le piano. Mais quand tu vas, il y a des endroits où il y a des gens, ils ont inventé leurs instruments. J'ai dit, mais oui, ça c'est l'instinct de domination. C'est l'instinct de domination, l'instinct inné qui a conduit à la recherche scientifique, médicale, technologique, sous toutes ses formes. Qu'est-ce qui pousse les hommes à la recherche? C'est le désir de dominer, d'établir la suprématie. C'est pas du diable, c'est de Dieu. C'est ce qui fait que tu ne supportes pas d'être broke down. Non. Il n'y a que les religieux qui supportent ça. Dès qu'on les écrase, ils disent c'est la volonté de Dieu. Un jour au ciel, je serai élevé. Non. Que quelqu'un fasse non. Non, je suis désolé. Il faut qu'on change là, il faut qu'on change de mentalité. Dis à ton voisin, tu dois rayonner. Je vois quelqu'un qui dit ça avec la tête baissée, sans conviction. Je sais pourquoi je dis ça sans conviction. Parce que la Bible dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Tant que tu marches droit avec Dieu, tu rayonnes, parce que tu remplis d'assurance. Mais quand tu ne marches pas droit avec Dieu, tu marches dans la culpabilité. Sois libéré de la culpabilité, et repends-toi et sois libéré à jamais de la culpabilité. Amen. Si hier encore tu es tombé, à partir d'aujourd'hui, relève-toi et ne tombe plus, ne donne plus d'excuses. Combat, prends ta chair, là, fais comme Paul, et tu la traites durement. Tu la traites à ce jeudi. Tu donnes des coups de poing, pas physique, mais des coups de poing avec ta vieille nature. Ne dis pas, non, je suis comme ça, je suis fait, dès que je vois, je dois tomber, je dois coucher. Non, tu n'es pas obligé de coucher. Non, nous sommes à l'église, nous devons dire la vérité. Les religieux sont choqués. Oh mon Dieu, regarde-moi Satan, il vient d'utiliser un mot, il ne faut pas utiliser dans l'église. Ouh là 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 là. C'est ça le problème, c'est qu'on n'utilise pas dans l'église. Alors, on dit saint, même lorsqu'il y a un pur, on dit ça. Non, quand c'est impur, il faut dire impur. Il ne faut pas dire impur là où c'est saint. Il ne faut pas dire pardon saint là où c'est impur. C'est choquant ce qu'il dit là. Oh mon Dieu. Je ne reviendrai pas ici, je ne peux pas partir parce qu'il y a du monde, je ne reviendrai pas. Ah ici, mon frère, ma soeur, ici tu dois rayonner. Je suis le sel de la terre, la lumière du monde. Christ en moi doit rayonner. Le monde a besoin de ça. Le monde est résigné, il cherche des modèles. Le monde cherche des porte-drapeaux. Le monde cherche des lumières. Quand on est dans les ténèbres, qui ne cherche pas la lumière? Tu as déjà vu quelqu'un, dès que le courant part, et puis il prend plaisir, tout le monde cherche un bouton à appuyer ou un téléphone portable. Maintenant, heureusement qu'on a le téléphone portable maintenant, on peut sortir le téléphone pour... Tout le monde cherche la lumière. Lorsqu'il y a des ténèbres, tout le monde cherche la lumière. Donc les gens te cherchent. Quelqu'un dit amen. Dis, il me cherche. Dis, la création m'attend. Je ne peux pas rester là, toujours dans ma rébellion, mon amertume. Non, je dois sortir de là. On m'attend dehors. I've got a shine. Je dois rayonner, resplendir. Ça ne veut pas dire que je n'échouerai pas, non. Ça ne veut pas dire que tu n'échoueras pas. Parce que des fois, je me planterai. Dieu permet, il n'y a pas de problème. Tu as déjà vu, regarde les DVD. Quand tu vois un superbe film à la télévision, rassure-toi. Tout n'était pas aussi parfait. Il y a des séquences même où ils se demandent bonjour, là. Ça a pris 25 reprises. 25 prises. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non. Même quand tu lis un livre, oh, c'est superbe. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Non, ça, c'est un livre puissant. Est-ce que tu sais combien de chapitres j'ai dû réécrire, combien de trucs j'ai dû écrire? Non, il y a toujours des choses que tu as mal faites, il faut effacer. Ce qui compte, c'est la photographie finale. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Toi, quand tu échoues là, c'est pas grave. Quand tu échoues, ça veut dire qu'il faut recommencer. C'est pas dit qu'il faut capituler, non, j'y arriverai pas. Tu y arriveras, tu dois y arriver, c'est écrit là-dessus. Tu as l'image de Dieu. Un chat n'accouche pas d'une souris, un roi n'accouche pas d'un trouillard. Il accouche d'un roi. Un dominateur accouche d'un dominateur. Il domine sur le péché, tu domines sur le péché. Tu tombes aujourd'hui, tu dis au péché, je suis tombé. La Bible dit, cette fois le juste tombe, il se relèvera. Je ne resterai pas dans cette tombe, je dois sortir de là. Ma création, la création m'attend. Je dois manifester Dieu, je dois révéler Dieu au monde entier. Si je tombe 10 000 fois, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que la 10 001e fois, je me relève et je ne tombe plus. Et si je tombe encore, je me relèverai encore. L'instinct de domination, c'est l'instinct de survie. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, ce n'est pas mon message, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Tu dois avoir une sainte colère envers l'échec. Tu dois haïr l'échec, haïr la médiocrité, haïr le statu quo. Tu dois détester de rester dans la tombe et voir les gens t'écraser, voir les démons rire de toi. Non! Tu dois avoir une colère divine. L'instinct de survie. Je prends des coups, mais je ne resterai pas dedans. Je hais tellement le diable, je n'ai pas envie de l'entendre faire nain, 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 nain. Quand j'entends le nain, 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 nain là, même quand j'étais KO, je me relève. Je dis non, 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 je ne resterai pas à terre. Tu veux me massacrer? Je ne resterai pas à terre. Dis à ton voisin, je ne resterai pas à terre. La lumière, même quand l'ampoule commence à se diminuer, hein, tu vas te recharger, la lumière revient, l'éclat revient. C'est une lumière rechargeable. Maintenant, il y a des piles rechargeables, il y a aussi des lumières rechargeables. Quand tu vois que l'intensité diminue, ce n'est pas grave, ce n'est pas un drame. Repars connecter la prise dans la gloire de Dieu. Tu sors de là, sa gloire va t'illuminer. Tu reviens, tu dis, je brille de nouveau. Alléluia. Dieu veut régner sur la terre. La création m'attend, elle a besoin de ce que Dieu a déposé en moi. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Donc à partir d'aujourd'hui, mon frère, tu dois arrêter de dire, moi je me contente de moi-même, médiocre. Là. Non, là, c'est plus grand que toi. Et quand les églises vont comprendre que le règne de Dieu c'est plus grand que même l'église locale, on va commencer peut-être à collaborer, à parler un peu plus entre églises. On va peut-être arrêter de se croire concurrents les uns des autres. On va peut-être à commencer à célébrer Dieu pour les valeurs, les vertus de l'unité. C'est parce que la plupart des gens ont la vision limitée, c'est moi, mon église. Non, le règne de Dieu c'est plus grand que l'église. Ça transcende l'église. C'est l'influence de la société. Que Dieu influence la société. Ça ne se fera pas que par ICC, ce n'est pas vrai. Et lorsque quelqu'un croit que nous sommes les meilleurs, non, nous ne sommes pas les meilleurs, je suis désolé. Nous sommes les fils de Dieu, il y en a beaucoup d'autres aussi. Bon, maintenant la question que je vais poser en fait, ça c'est mon message d'aujourd'hui, j'ai fini dans quelques minutes. Mais je sais, vous ne croyez pas, rendez-vous. Luc chapitre 19, vous ne croyez même plus ce qu'on dit, c'est pas possible ça. Ayez la foi. Alors la question que je dois me poser, puisque j'ai compris que je dois prier et œuvrer pour que son influence se répande sur le pays, afin que le pays ne soit pas frappé de malédiction, mais que pour le pays jouisse de la bénédiction. Que Dieu visite tout le pays, influence tout le pays. Même les gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur sont influencés, seront influencés par la pensée de Dieu. Même le monde environnement, les gens qui hier allaient en boîte de nuit, désormais vont aller dans l'église les samedis soirs, ils vont faire la fête à la maison, ils vont louer, danser. À l'époque, quand j'étais au lycée, on nous a appris tous les matins, il fallait se retrouver sous la bannière, sous le drapeau, et puis enchanter des chants de Karl Marx, enchanter des hymnes nationaux qui étaient à l'effigie, à la gloire de Karl Marx. Mais normalement, dans la pensée de Dieu, dès le matin, c'est à l'école. Là, parce qu'aux États-Unis c'était comme ça à l'époque. À l'école, dès le matin, les gens chantent des chants. Ils chantaient quoi? Je sais qu'aux États-Unis, on chantait, on parlait de Dieu. On se réunissait à l'école et puis on parlait de Dieu. Le chant qu'on chantait, c'était un hymne à la gloire de son nom. Alors la question est, mais si tu es un roi, si je suis un roi doit avoir un territoire sur lequel il règne. Un roi doit avoir un domaine. Quelqu'un dit domaine. Ça vient, le mot kingdom, royaume, en anglais kingdom, c'est the domain of the king, le domaine du roi. Un roi doit avoir un domaine sur lequel il exerce l'influence et la prépondérance. Donc, tu dois avoir en tant que roi, puisqu'il a dit qu'il est le roi des rois, tu dois avoir un domaine dans lequel tu es incontournable. Il doit y avoir un domaine dans lequel la qualité de ton témoignage resplendit tellement, rayonne tellement que tout le monde dans ce domaine a envie de te ressembler. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Tout le monde doit être influencé par toi. Mais il y a un domaine, dis encore un domaine. Il y a quelqu'un qui en est déjà fatigué par le peu qu'il a entendu. Ça y est, je suis abattu. J'ai dit non, tu ne dois pas te laisser abattre. Tu dois avoir un domaine dans lequel tu es incontournable. Un domaine dans lequel tu es la référence. Un domaine dans lequel tu es la lumière qui éclaire. Un domaine dans lequel Dieu te permet d'exercer la supériorité. Il a dit, je vous donne la supériorité. Ce n'est pas arrogant, c'est biblique et c'est divin. Mais je sais que nous avons tellement lutté, tellement habitué à rester dans le statu quo, que même quand on dit ce genre de choses, c'est dur à avaler, je le sais. Voilà pourquoi je vous fais répéter ces choses, parce que tu dois avoir un domaine. Dis, je dois régner dans un domaine. Tu dois régner dans un domaine. Comment est-ce que tu fais pour trouver l'endroit, le domaine dans lequel tu dois régner? Tu dois trouver, tu dois régner dans un domaine. Il y a un domaine dans lequel tu dois rayonner, éclairer. Il faut que tu serves de référence. Alléluia. Je leur ai dit, j'ai déjà dit pourquoi le roi, pourquoi est-ce qu'on, j'ai dit ça ou pas? Pourquoi est-ce qu'en Angleterre, vous savez pourquoi en Angleterre, dans le monde anglo-saxon, on compte avec les pouces? Chez nous on a des centimètres, là ils ont des pouces. J'ai jamais compris ça. On compte tout en pouces. La télévision te dit c'est 16 pouces, 19 pouces. 21 pouces. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque du roi Jacques, pas le pasteur Jacques, hein, mais le... à l'époque du roi Jacques d'Angleterre, à l'époque du roi Jacques d'Angleterre, il n'y avait pas... Tu es le roi? Oui, je sais, mais c'est toi que je dis. Ça, lui, c'est le roi contemporain, mais nous parlons d'il y a quelques siècles en arrière. Lui, c'est le roi de notre génération. Mais à l'époque du roi Jacques, À l'époque du roi Jacques, on ne savait pas avec quelle unité mesurer les choses. Alors, le roi d'Angleterre, qui s'appelait James, King James, c'est même de son nom qu'est venue la Bible, King James. Le roi Jacques a décidé que, puisqu'il n'y a pas de référence, il va créer la norme. Et la norme, c'était son pouce à lui. Il a dit, prenez mon pouce, mesurez mon pouce, la norme va être mon pouce. C'est celui qui règne qui impose les standards. C'est celui qui règne qui édicte les lois. C'est celui qui règne qui établit les choses. Et depuis ce jour-là, je ne sais même pas quelle taille faisait son pouce, mais on compte ton pouce. Dis à ton voisin, tu dois régner. Il y a un voisin qui n'a pas envie de parler à son voisin. Ça te... Dieu te pardonne. S'il ne veut pas te parler, dis seulement, je dois régner. Mon ami, non, il faut que je règne. Christ doit rayonner à travers moi. Je ne me bats pas pour moi, je me bats simplement pour être un disciple. Parce que Christ en a assez du diable, il en a assez de le voir se moquer de lui. Il se moque de Christ et nous on est là. Seigneur, le diable se moque de toi. Comment il se moque de toi? Il t'envoie des maladies chroniques. Non, il se moque de Christ. Parce que la gloire de Dieu n'est pas dans la maladie. Il se moque en envoyant des démons. Les démons, tu chasses, ils ne bougent pas. Tu chasses, ils ne bougent pas. Il est en train de se moquer de Christ, il est en train de se moquer de toi. C'est une honte. Il se moque en maintenant la stérilité. Non, il faut qu'il y ait une sainte colère. Je dis, Seigneur, non, il faut que ça change, ça, bon sang. Il se moque de toi. Et Dieu, il est en colère après ça. Il dit, mais bon sang, je vous ai mis sur la terre pour écraser le diable, pour le discipliner. Et il se moque de vous. Et en se moquant de vous, il se moque de moi. Alors je cherche juste un vase. Permets-moi de le gifler, de l'assujettir. Je cherche quelqu'un, je cherche un adorateur. Quelqu'un qui se rende disponible et qui me laisse opérer. Quelqu'un qui me laisse opérer. Je vais montrer ce que je suis capable de faire. Bon sang, je suis un roi. Je dois exhiber ma force. Je cherche un vase qui reconnaît qu'il est faible, mais à travers lequel je vais manifester ma force et ma puissance. Je cherche un vase. Mais les vases que je cherche, ils sont tous là. Ouais, mais tu sais, moi, je ne peux pas me rendre disponible. Tu sais, moi, j'ai trop échoué. C'est dur. Écoute, laisse-moi, je te dis, tu es capable. Voyons, héros, laisse-moi travailler. Ah non, laisse tomber. Tu sais, moi, ça ne peut pas marcher. C'est ça. Donc, des fois, j'ai envie de taper le diable, j'ai envie de taper toi. Il dit, bon, je tape tout le monde alors. Vous voulez pas obéir, pas. Mais c'est ce que Dieu fait. Parce que par le refus d'obéissance, c'est la rébellion. Alors, il tape les démons, parce que les démons, ils trompent déjà de toute façon. Ils les tapent tous les jours. Mais avec toi aussi, c'est ce qu'il a fait. Et il s'arrête uniquement quand il voit un David. Quand il voit quelqu'un qui le contemple, qui l'adore, qui lui dit, Père, il dit, non, toi, je te tape pas. Les autres, pas. Vous voulez pas obéir, toi. Alors, tu dis, Seigneur, la maladie est grave. Et ça grave encore. Il dit. Seigneur, le démon là me fatigue, il dit allez, les autres, allez, tabassez-le. C'est pour ça que Dieu permet l'affliction. La Bible dit au jour de l'adversité, au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Des fois, il y a des messages que Dieu sait de transmettre. Dieu enseigne, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et Dieu parle beaucoup par les circonstances de la vie. Des fois, certaines circonstances sont une gifle que Dieu t'envoie, juste pour te secouer, pour te réveiller, te dire arrête de t'apitoyer sur ton sort. Oui, mais tu sais, j'ai tellement souffert. Moi, c'est pas ma faute. Dédié, allez, en bon, c'est ça? On va encore t'enterrer, on t'a écrasé encore. Non, Dieu n'est pas un tyrannique. Dieu est un père qui châtie ceux qu'il aime. Afin de les faire participer à sa sainteté. J'ai dit, non, depuis que tu as accepté Jésus, là, franchement. Franchement. Qu'est-ce qui a changé? Donc, tu fumes plus 3 paquets, tu fumes 1,5 paquet, c'est ça? Hier, je couchais 1 fois par semaine, par jour. J'ai trompé mon mari une fois par mois, ou j'ai trompé ma femme une fois par an. Bon, maintenant, pasteur, j'ai diminué. Maintenant, je ne trompe qu'une fois par trimestre. Je ne fais plus les 400 coups tout le temps. J'ai réduit la dose. Pasteur, Dieu est fidèle. Tu as envie de prendre ta main, de l'imposer sur son visage en disant, je proclame la fidélité de Dieu. Des fois, je regrette l'ancienne alliance. Non, l'Ancien Testament, Dieu était bon. Il te fouettait immédiatement et tu te repentais subitement. Au moins, on ne caressait pas. Ouais. Non, la grâce là, non. La grâce a abîmé beaucoup de gens. C'est la grâce. Je ne suis pas marié, mais je l'embrasse sur la bouche, mais je ne pêche pas. Hein. Ce n'est pas de péché. Ce n'est pas un péché. Je pense à toute forme de convoitise dans mon cœur. Je vois les scénarios, mais tu sais, à part ça, ouf, Dieu est miséricordieux, pasteur. Je vais me marier, Dieu est... Vraiment, non, Seigneur. Seigneur, augmente encore en moi la haine de Satan, la haine de l'injustice. Non, je n'ai pas dit que je suis mieux que les autres, ce n'est pas vrai. J'ai dit simplement, je prie pour ça, je prie pour la haine du péché tous les jours. Change tes prières peut-être. Arrête de prier pour dire, Ah non, moi je prie 5 minutes par jour, ça me suffit, tu sais. C'est pour ça que tu tombes dans le péché. Vous savez, pour la consécration, là, il ne faut pas prier 5 minutes par jour. Tu dois supplier, tu t'accroches à Dieu. Tu dis, Seigneur, si je reste comme je suis fichu. I've got to be changed. Tu dois me changer. Si tu me livres à moi-même, je suis fichu. Je n'ai même pas besoin que Satan intervienne. Ma propre nature va me bousiller. Délivre-moi de ce péché. Est-ce que franchement, tu en as lutté jusqu'au sang? Est-ce que ta veine s'est ouverte en résistant au péché? Même pas. Et tu dis, non, j'ai lutté. Non, mais attends. Le sang n'a pas coulé encore et tu es fatigué. Non, tu dois lutter jusqu'au bout. Tu dois survivre. Dis à ton voisin, tu dois survivre. Il faut avoir l'instinct de survivre. Non, je n'ai pas le droit de mourir, de couler. Non. Il ne faut pas croire que marcher dans la sainteté, c'est facile. Parce que tant que tu es dans un corps humain, ta vieille nature, la nature que tu as héritée de Adam, elle aime le péché. Il ne faut pas céder à ses pulsions bêtement. Tu cèdes au découragement. Qui? Tu crois que ça nous est jamais arrivé d'être découragé? Tout le monde connaît le découragement, mais il n'a pas dit d'en faire une habitation. Quand tu es découragé, tu fais comme moi. Tu viens devant Dieu, tu dis, dignes-tu, agneau. Je suis en colère de Dieu. Mais je chante quand même. Parce que tu crois que quand je dis dignes-tu, je suis toujours content. Non, je respecte, j'approche de Dieu avec protocole. Ça ne va pas toujours comme je veux que ça aille, mais j'apprends à venir devant Dieu et à ne pas laisser ces choses m'envelopper, sinon ça va me tuer. Et je suis un producteur de vie, je dois répondre à la vie, je ne peux pas me permettre d'être envahi par la mort. Alors je viens devant Dieu parce que je n'ai pas toujours la force. Je viens devant Dieu et dans sa présence, je reçois la force, je suis déchargé, renouvelé, restauré. Mais je prends du temps. Je prends du temps, il n'y a pas de formule miracle. Quand tu vas voir le médecin, la première chose qu'il fait, une fois qu'il a diagnostiqué la maladie, il te donne des cachets. Il te donne une ordonnance. Dès que tu sors de là, tu vas à la pharmacie, prends l'ordonnance. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les médicaments ou pas? On va devant Dieu avec un problème. Dieu te donne l'ordonnance. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est un médicament. J'ai compris que le royaume de Dieu, c'est formidable. Parce que toi, dans le royaume de Dieu, quand tu n'as pas quelque chose, même quand tu n'as pas quelque chose, tu peux l'acquérir. Comment tu fais? C'est ce qu'il explique dans Marc chapitre 4, verset 26. Il dit, dans le royaume de Dieu, c'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'il te faut? Tu n'as pas d'amour, on t'a pas aimé, il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? Tu pêches tout le temps, tu donnes le péché, la fornication, il n'y a pas de problème. Prends des paroles d'amour dans l'entrepôt. Va dans les graines. Tu vas chercher des graines. La parole de Dieu est remplie. La parole de Dieu, c'est un entrepôt de semences ou encore de graines. Elle a toutes les graines dont tu as besoin. Il dit que la parole de Dieu est un médicament. C'est un remède. Ça veut dire que ça agit comme des cachets. De quoi est-ce que tu as besoin? Tu n'as pas de paix? Ok. Va chercher la parole. Il a dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Donc si tu as beaucoup de tribulations, donc c'est normal. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. On vous donne toujours de vous inquiéter de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, les supplications avec l'action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Voilà, il vient de te donner des paroles, des graines. Laisse ces graines entrer en toi. Elles vont produire la paix. Aujourd'hui, tu n'as pas la paix. Laisse ces graines-là, c'est caché. Avale-les. C'est quoi le champ? C'est ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut suivre? La parole, c'est un médicament, c'est un comprimé. Prends les comprimés. Mais toi, tu contemples le comprimé, ça va pas, ma santé se dégrade. Et puis, quelques jours après, quelques semaines après, tu vas voir le médecin. Ça va mieux? Non, ça va toujours pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez pris les comprimés? Non. Bon, sortez de mon bureau. Mais sors de mon bureau. Maintenant, les cachets, tu ne peux pas les cacher, tu dis là. Et puis, tu viens me faire croire à moi, le médecin, parce que la Bible dit qu'il est mon médecin. Tu viens me faire croire que non, la guérison ne marche pas. Ça marche, mais tu ne prends pas les comprimés. Tout là-dedans, il y a des comprimés. C'est quoi la maladie? Il dit que sa vie, quand elle est en toi, sa vie produit la vie. Sa vie te vit, elle vivifie ton corps. Sa parole vivifie mon corps. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Je dis, ok, donc je suis guéri. Donc je ne suis pas malade. Oui, non, tu es guéri. D'accord. Alors je vais chanter, je vais te remercier pour la guérison. Pourtant, je sens la maladie de mon corps, mais je vais chanter. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les comprimés. Et tôt ou tard, il a dit que tu veilles, qu'il fasse nuit ou jour. Que tu dormes ou que tu veilles. Ce que tu as planté là. Tant que tu le gardes à l'intérieur, continue de travailler. Continue de travailler. Et à un moment donné, pouf, tu vois la chose se manifester à l'extérieur. Mais c'est comme ça qu'on est transformé. Vous croyez qu'il faut imposer les mains 10 000 fois, taper des gifles, prendre la veste sur le menton, bah! Reçois l'onction, triple onction, coup de pied, il y en a même nous, bah! Au nom de Jésus, reçois. Aïe, pasteur! Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime, bah! Chassez d'abord le royaume, bah! Quand tu ne veux pas la simplicité de la parole, tu vas prendre tout et n'importe quoi. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, prends les comprimés. Non, tu vois, regarde, il y a quelqu'un qui est tellement fatigué qu'il a même envie de parler à son voisin. Il dit à ton voisin, prends les comprimés. Oh, Jésus, aide-nous. Aide-nous. Mais on cherche des raccourcis. On ne veut pas la parole. Quand tu dis, prends les CD, prends les enseignements, écoute dans ta voiture, c'est trop cher. Par contre, il a l'argent pour aller manger à McDonald's, il dit, c'est trop cher. Et puis quand il est down, toujours malade, il dit, je ne comprends pas, je suis toujours malade. Mais c'est normal. Il a dit, prends les comprimés de la parole, avale-les en permanence. Tu prends les comprimés trois fois par jour. Prends la parole trois fois par jour. Alléluia. C'est simple. Est-ce que ce n'est pas simple, franchement? Je ne suis même pas dans le message d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sens bizarre, je sens mon témoin de cette colère. Il faut que tu changes, il faut que je change. Changeons. Dis à ton voisin, changeons. Parce que je ne peux pas aller dans la dimension du règne tout seul. J'ai besoin de toi. On doit être nombreux. Quand on est nombreux, on forme un bloc. Dès qu'on tire sur un, les autres continuent. Mais quand tu es tout seul, on t'extermine. Un chasse 1000, deux on chasse 10 000. Un tout seul ne peut pas chasser 1 million. C'est pas vrai. Quelle que soit ton onction, Paul, quelle que soit son onction, il a vu le ciel, il a eu des révélations. Paul avait besoin des prières des autres. Paul avait besoin du soutien des autres. Quel que soit mon niveau d'intimité, j'ai besoin des autres. Et tant qu'on ne se lève pas nombreux, on ne va pas tous avancer. C'est pour ça peut-être que je me sens en colère. Parce qu'il y a des gens qui nous bloquent. Eh mais moi, j'ai très, moi c'est dur. C'est pas dur. Prends les comprimés, tu vas voir que tu te sentiras mieux. La parole est un remède. Tu veux que ça aille mieux? Écoute cette parole. Investis en toi. J'ai investi des dizaines de milliers de dollars, moi. Donc pour apprendre des choses que je ne connaissais pas. J'ai investi des dizaines de milliers de dollars. Si je dois compter, je dois avoir investi au moins 80 000 dollars. Et où est-ce qu'il a trouvé l'argent? J'ai pris dans mes économies. Ah bon? Pasteur avec 80 000 dollars? Non, en plusieurs fois. Hein? Non, parce qu'il faut tout expliquer. Âme sensible, toujours déformée, c'est ce qu'on dit. Faut s'expliquer. Mais j'ai investi. Alors tu arrives, tu ouvres la bouche, les gens sont édifiés. Ils disent, mais comment tu fais? Mais c'est extraordinaire. Jean, explique. Alors, il y en a un. Il faut que tu sois mon coach. Il faut que tu sois mon coach. J'ai besoin d'un coach. J'ai dit, le Saint-Esprit est ton coach. Va chercher le Saint-Esprit. Non, non, c'est toi. J'ai dit, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est tellement plus facile d'aller chercher un homme que d'aller chercher le Saint-Esprit. Parce que Dieu, là, Dieu est plus difficile à trouver que l'homme. L'homme, tu tapes son téléphone, bon, moi le mien il est fermé, il n'y a pas de problème. L'homme, tu tapes, mais le Saint-Esprit, il ne se révèle pas à toi parce que tu demandes. Il se révèle à toi parce que tu réponds et tu appliques les standards, les critères. Tu te sanctifies, il dit, tant que tu ne te sanctifies pas, je ne viens pas. Seigneur, viens. Il dit, est-ce que c'est propre? Il y a encore, Seigneur, tu as même été témoin. Hier, je couchais avant, quand même. C'était une fois par semaine. Seigneur, j'ai réduit la dose. Il dit, reste là-bas. Personne ne va, aucun ange n'agit, reste-le tout seul. Et le démon vient, il te tabasse, il te gifle, il te bouscule. Ils enlèvent ta paix, ils enlèvent ta joie, ils enlèvent ta foi, ils enlèvent ton enthousiasme. Et tu es là, je ne comprends pas, je prie, je vais à l'église, mais ça ne change pas. Mais c'est normal que ça ne change pas, ce n'est pas Dieu le problème. Oui, mais Dieu est miséricordieux, Dieu comprend, je suis faible. Quel tu es faible? Il a dit que le faible dit, je suis fort. Donc déjà, tu te rébelles à ce qu'il te dit. Je suis faible, tu n'es pas faible. Tu es faible, ça veut dire que Christ en toi est faible. Christ voit qu'il est faible. Enfin, mais on ne peut pas te tuer. On ne peut pas te tuer. Christ est en toi. Tu es indémontable, imbattable. Non! Tu es redoutable. Ah, Seigneur. Bon, message d'aujourd'hui maintenant. Luc, combien? Voilà. Luc 19. Non, il faut que je le donne parce que j'ai donné ça au premier culte. Le dimanche prochain, je vais continuer. Je vais donner ça vite. Alors, Luc 19, verset 11 à 27. Tu m'appelles à rayonner, à resplendir dans un domaine déterminé. Il y a un domaine dans lequel je dois être la lumière du monde, le sel de la terre, la bonne odeur de Christ. Je dois impacter mon environnement. Luc chapitre 19, verset 11 à 27. Alors qu'ils écoutaient, il ajouta une parabole parce qu'ils étaient... parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Il s'attendait à voir. Oh, le roi est là. Ils attendaient à quelque chose. Les Américains n'étaient pas encore là pour faire la musique, mais Hollywood n'était pas encore arrivé. Je ne sais pas qui faisait ça à cette époque-là, mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, ce serait Hollywood. Et il dit donc verset 12. Alors Jésus leur dit, doucement, doucement, doucement. Vous croyez que c'est maintenant que ça va être visible? Attendez. Dis à ton voisin, doucement. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Souvenez-vous que Jésus parle toujours des vérités profondes sous forme de paraboles. Amen. Verset 13, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Que quelqu'un dise, fais-les valoir. Verset 14, mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Ça, ce sont les gens qui ont choisi de rejeter le Seigneur, ils vont aller en enfer, c'est leur destination finale. Verset 15, lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, verset 17, c'est bien, bon serviteur, parce que tu étais fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Que quelqu'un dise gouvernement. Est-ce qu'il dit reçoit la religion, reçoit? Il parle de gouvernement. Ouh, Jésus de Nazareth. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Donc Jésus est en train de préparer dès maintenant sur terre. Il est en train de nous préparer à administrer les affaires de Dieu sur terre. Ouh, que quelqu'un dise amen. Un autre vint et dit, ça, c'est un pentecôtiste charismatique. J'espère qu'il n'est pas de ICC. Il arrive. Alléluia, Seigneur. Oh. Jésus dit, rends compte de ton... Ça produit combien de mines? Hé, hey, Jésus, ah, tu es bon. Il est bon aujourd'hui, il est bon. Alléluia, hey. Alléluia. Jésus fait des miracles. J'adore, je chante. Je sens la présence de Dieu. Le Seigneur le regarde et dit, rends compte. Rends compte de ce que tu as fait sur terre. Donc, dis-moi combien ta mine a produit. Seigneur, tu es trop bon. Tu sais, moi, je vais te dire. Tu es tellement bon. Je dois t'avouer une chose. Bon, j'avais gardé ça dans le linge. Voici ta mine, verset 20. Voici ta mine que j'ai gardée dans le linge. Mais c'est bien protégé, hein? C'est un linge sécurisé. Mais en fait, j'avais peur de toi, tu vois, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Jésus dit, ah bon? Je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, il dit, méchant serviteur, tu savais que j'étais un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque à mon retour? Je l'aurais retiré avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines, il en a déjà 10, c'est beaucoup. 10 mines, il va gouverner, 10 mines, il va gouverner, franchement. Jésus dit, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et égorgez-les en ma présence. Dis encore à ton voisin, tu as un domaine dans lequel tu dois régner. Cette parabole associée à celle de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30, nous révèle une chose. C'est que Dieu est en train de nous préparer dès maintenant sur terre. Dieu est en train de nous préparer à régner avec lui dans l'éternité. Comment il fait? Il est en train de jauger, de mesurer, d'évaluer notre capacité à régner avec lui en fonction de la manière dont nous sommes capables de gérer, de développer et de maximiser les choses qu'il nous a confiées maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il voit comment tu gères, développes et optimises ce que tu as maintenant. Pas ce que tu n'as pas, ce que tu as. La manière dont tu le multiplies. C'est ça qui va déterminer le domaine et la qualité de ton règne dans l'éternité. Le domaine dans lequel tu dois régner dépend de la forme que Dieu t'a donnée. Quelqu'un dira, oui, mais là il parle de la parabole des mines, il parle de l'argent. Oui, mais Dieu ne te donne pas de l'argent à ta naissance, mais Dieu te donne une forme à ta naissance. Et cette forme, c'est le potentiel. Cette forme contient tout le potentiel. Cette forme que tu as dès ta naissance fait de toi la personne unique que tu es et qui fait qu'il n'y a personne d'autre comme toi sur la terre. Modèle unique. Dis à ton voisin, ma forme est unique. Est-ce que vous me suivez? Dieu est en train de nous expliquer qu'il nous a donné quelque chose. Si je veux trouver ce qu'il m'a donné, d'abord, avant d'optimiser ce qu'il m'a donné, je dois trouver ce qu'il m'a donné. Or, qu'est-ce qu'il m'a donné? Ce qu'il m'a donné se trouve dans la forme avec laquelle je suis venu au monde. Allons-y. Job chapitre 10 au verset 8, je lis. C'est écrit, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Psaume 119 verset 73, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Psaume 139 verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Ésaïe 43 verset 21, le peuple que je me suis formé, que quelqu'un dise formé, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ésaïe 44 verset 24, ainsi parle l'Éternel ton rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Il a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul, j'ai déployé les cieux, seul, j'ai étendu la terre. On finit avec Jérémie chapitre 1 au verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je répète, avant que je ne t'eusse formé, dis encore formé. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que dès le ventre de ta mère, avant même que tu ne sois formé, je t'ai donné une forme. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dans le ventre de ta mère, il t'a formé. Dis encore formé. Ça veut dire que ta forme est unique. Et si tu veux comprendre ce que tu as reçu de Dieu, regarde à ta forme. Ne regarde pas à ton voisin, ne regarde pas à ta voisine. Regarde à ta forme. Dis, je suis unique. Former, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre dans un moule. Quand Dieu dit, je t'ai formé, Dieu veut dire, je t'ai mis dans un moule. C'est-à-dire, encore, je t'ai taillé sur mesure. Dis, je suis taillé sur mesure. Je t'ai taillé sur mesure. Or, vous savez que lorsqu'on taille quelque chose sur mesure, lorsque tu tailles un costume, par exemple, sur mesure, quand le costume ne te va pas, tu ne peux plus toucher au costume. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand on fait un moule sur mesure, on ne peut plus toucher au moule. Ce qui doit changer, c'est toi. Tu dois te redimensionner. Tu dois t'ajuster, maigrir ou grossir. Pour certains, c'est grossir. D'autres, c'est maigrir. Pour rentrer dans la tenue sur mesure qui était préparée pour toi. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que ce que Dieu a établi comme moule ne changera pas. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe et Éphésiens chapitre 2, pardon, Éphésiens 2 verset 10, car nous sommes son ouvrage, nous sommes son modèle, nous sommes son chef-d'œuvre, nous sommes sa fabrication, son ouvrage, ayant été créé sur mesure en Christ Jésus, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que tu ne peux pas choisir, tu peux choisir ta femme, choisir ta voiture, choisir ta maison, mais tu ne peux pas choisir le moule, ce n'est pas ta responsabilité. C'est Dieu qui choisit le moule qu'il a préparé pour toi. La clé de la réussite dans la vie, la clé de l'accomplissement de la destinée, c'est découvrir quelle est la forme unique que Dieu m'a donnée. Quel est le moule, quel est le modèle sur mesure qu'il a paramétré pour moi. Et lorsque tu rentres dans ce modèle-là, tu réussis dans tout ce que tu fais. Est-ce que vous me suivez? On donne une forme, Dieu donne une forme à chacun d'entre nous parce que la forme, c'est ce qui te permet de fonctionner. Peugeot vient d'annoncer qu'ils vont lancer des 4x4 prochainement. Ils n'ont pas décidé ça sur un coup de tête, ils ont fait des calculs. Ils ont fait une étude, ils ont fait du management de projet. Ils déterminent d'abord à quoi va servir ce genre de 4x4. Ensuite, pour qui, à qui est-ce que ça s'adresse? Quel est le genre de personne qui va acheter ce genre de 4x4? On ne se lève pas comme ça pour créer des choses, non. Jésus a dit, on ne se lève pas pour bâtir une maison n'importe comment. On s'assied d'abord, on calcule d'abord, est-ce que j'ai avec ce que j'ai, je peux finir la maison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc Dieu ne crée pas les choses n'importe comment en désordre. La clé de ta destinée réside dans ta capacité à découvrir le costume sur mesure que Dieu a préparé pour toi. Et lorsque tu enfiles ce costume, tu deviens dans le plan parfait de Dieu parce que ta forme est unique. Que quelqu'un dise amen. Ta forme est unique. J'ai bientôt fini. Alors, c'est quoi ta forme? F,
c'est faire l'inventaire de tes dons spirituels. Il y a 5 critères qui permettent de faire de toi la personne unique que tu es. C'est ça que nous allons développer les semaines prochaines. F, c'est faire l'inventaire de tes dons spirituels. O, c'est ouvre ta boîte à talents ou encore ta boîte à capacités. Qu'est-ce que tu sais faire depuis que tu es né? Qu'est-ce que tu sais naturellement faire? R, c'est reviens sur tes expériences passées. Si tu regardes à ta vie, tu vas voir que tu as toutes sortes d'expériences. Tu as des expériences douloureuses. Dieu ne te fait pas passer par des expériences douloureuses en vain. Il y a des choses que tu connais qui te font mal, mais il y a un but derrière tout ça. Il y a des expériences pédagogiques. Tu n'as pas étudié ce que tu as étudié en vain. Et tu n'as pas aussi pas étudié en vain. Tout est permis par lui, pour lui et en lui. Quelqu'un dit amen. Reviens sur tes expériences passées. Tu as des expériences pédagogiques, des expériences spirituelles, des expériences douloureuses. Tout ça, ce sont des indicateurs. M, c'est mesure les battements de ton cœur. Au niveau physiologique, chacun de nous a un battement de cœur unique. Aucun battement de cœur ne ressemble à un autre. De la même manière, au niveau émotionnel, notre cœur ne bat pas pour les mêmes choses. Notre cœur ne bat pas pour les mêmes choses. Il y a des choses qui font battre ton cœur et qui, moi, me laissent totalement indifférent. Il y a des gens, lorsqu'ils ont mal, ton cœur est en colère. Il y a des gens, lorsqu'ils ont mal, ton cœur est indifférent. Il y a des choses, lorsque tu apprends à la télévision, ça te donne envie de pleurer, ça t'irrite. Il y en a d'autres, ça te laisse indifférent. Pourquoi? On n'a pas le même battement de cœur. Quand tu vas rentrer dans ce modèle-là, tu vas voir, ah mon frère, que Dieu nous délivre là. Les gens, vous devez comprendre, Dieu est concerné, préoccupé par les choses de la terre. Dieu veut nous emmener au ciel, bien sûr. Il veut qu'on s'assure d'aller au ciel. Quelqu'un dit amen, je n'ai pas dit le contraire. Mais tant que je suis sur terre là, Dieu veut me rendre effectif et efficace sur terre. Voilà pourquoi il me donne une forme. Ma forme me permet de fonctionner. La fonction, c'est le règne, c'est l'influence. Et dans quel domaine est-ce que je dois régner? Pour savoir où je dois régner, je dois avoir la forme qu'il m'a donnée, parce que cette forme est unique. E, c'est examine ta personnalité. 5 critères qui, lorsque tu les mets ensemble, on va les développer la semaine prochaine, parce que les dons spirituels, fais l'inventaire de tes dons spirituels. Dieu est concerné, préoccupé par les choses de la terre. Dieu veut nous emmener au ciel, bien sûr. Il veut qu'on s'assure d'aller au ciel. Quelqu'un dit amen, je n'ai pas dit le contraire. Mais tant que je suis sur terre là, Dieu veut me rendre effectif et efficace sur terre. Voilà pourquoi il me donne une forme. Ma forme me permet de fonctionner. La fonction, c'est le règne, c'est l'influence. Et dans quel domaine est-ce que je dois régner? Pour savoir où je dois régner, je dois avoir la forme qu'il m'a donnée, parce que cette forme est unique. E, c'est examine ta personnalité. 5 critères qui, lorsque tu les mets ensemble, on va les développer la semaine prochaine, parce que les dons spirituels, fais l'inventaire de tes dons spirituels. Les dons spirituels, ce ne sont pas les capacités, ce ne sont pas les talents. Les dons spirituels, c'est quelque chose, ce sont des cadeaux que Dieu te donne lorsque tu reviens à la maison. Chacun de nous a au moins un don, au minimum, il y en a plusieurs même. Et je vais vous expliquer ça la semaine prochaine. Après, nous allons voir, ouvre ta boîte à capacités. Tout ce que tu es là, la raison pour laquelle les gens sont frustrés, même quand ils gagnent beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le moule que Dieu a paramétré. Lorsque je rentre dans le moule que Dieu a paramétré et que j'opère dans ce moule-là, je réussis dans tout ce que je fais. Je rayonne, je suis heureux, je suis épanoui. Pourquoi? Parce que je suis à ma place, je fais ce que je suis appelé à faire. C'est lorsque tu sors du moule que tu commences à regarder les gens, tu commences à rentrer dans les comparaisons, les complexes de supériorité ou d'infériorité. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Dis encore, je suis unique. Je suis taillé sur mesure. Dieu fait toutes choses avec un but. Je suis unique. Lorsqu'il m'a fait, Dieu a dit, je vous ai dit, tu ne peux pas choisir ta destinée. Tu ne peux pas choisir non plus tes parents. Parce que les parents, c'est à partir de tes parents que Dieu devait te façonner toi. Et comme je dis toujours, tu n'es pas né de tes parents parce que tes parents étaient gentils. Tu es né de tes parents parce que Dieu savait qu'il fallait faire un modèle. Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses avant qu'elles ne se produisent. Alors Dieu, sachant qu'un jour, je dois venir sur terre, moi, Ivan Castanou, Dieu dit, bon, lui, dans ma préscience, comme il anticipe tout, Dieu ne réagit pas, Dieu agit. Il dit, ok, il faut qu'il vienne, il faut que je le fasse naître en Afrique. Enfin, je suis né en France, remarquez, mais bon. Il faut que je le fasse grandir en Afrique. Parce que je sais dans ma préscience, mais même tout ça, c'est pas un hasard. Il a grandi en Afrique, mais il est né ici. Dieu savait qu'il fallait qu'il ait le passeport français pour faciliter ses déplacements. Autant marqué. Si tu n'as pas de papier, on est ensemble. On prie pour ça.
On prie encore. Dieu dit non, il faut qu'il grandisse en Afrique. Je sais que dans ma préscience là, je sais qu'à l'époque où il va naître, l'Afrique sera un continent qui aura trop besoin d'aide. Ce continent va crier à moi, il aura besoin d'un libérateur. Je vais le susciter. Pas pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Mais il faut qu'il soit ébène, ébéni, de couleur. De couleur ébène et béni. Parce qu'il faut que les gens puissent s'identifier à lui. Oh, alléluia. Alors, il faut qu'il soit extraverti. Il faut qu'il soit extraverti parce que lui, je l'appelle à être quelqu'un qui va parler beaucoup. Donc, il faut qu'il soit très à l'aise. Donc, je vais lui donner une personnalité plutôt extravertie. Et il faut aussi que ce soit quelqu'un qui ait du répondant. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il se laisse désarçonner, désarmer par des gens qui parlent mal. Non, je vais lui donner un tempérament. Je vais lui donner du répondant. Alors, je vais le faire sortir. Je vais le faire naître de quelqu'un qui a déjà du répondant. Quelqu'un qui va juste anticiper sa naissance et qui va permettre de me... Parce qu'il faut que je donne les gènes là, de quelqu'un qui est répandant, qui ne se laisse pas écraser. Il faut que je mette ça. Alors, il faut que je trouve quelqu'un qui va naître avant lui et en qui je vais pouvoir placer Ivan. Alors, Dieu cherche la terre, il cherche. Il dit, ok, il y a quelqu'un qui va s'appeler... À ce moment-là, je sais déjà qu'il y a quelqu'un qui va s'appeler Michel. Il est prévu qu'il vienne à cette génération-là. Comme il faut du répandant, je vais lui donner... Il veut le faire sortir de Michel. Ah, voilà, Dieu. Tu vois, ça, c'est le crochet de la Trinité. Dieu calcule. Non, tu n'es pas né par hasard. Ta forme n'est pas un hasard. Dieu a calculé ça et dit, ok, il faut quoi encore là. Avant qu'il ne me connaisse, il faut que je lui donne envie de réussir à l'école. Hein? Parce que lui, en particulier, je vais l'utiliser pour entrer dans certains milieux où les gens n'entreront pas à cette époque-là s'ils n'ont pas de diplôme. Parce que je vois déjà dans ma pression ce qui va se passer dans tant de milliers d'années. Non, il faut qu'il ait... Ok, je veux le faire réussir à l'école. Parce que c'est ce qu'on appelle les expériences pédagogiques. Les expériences pédagogiques, ce n'est pas un sujet de gloire. C'est exactement juste de rentrer dans des milieux où les gens n'entreraient pas normalement s'ils n'ont pas ce même genre de statut ou de diplôme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, tu vois, même quand tu ne le connaissais pas, il dit, avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je savais déjà que je t'avais appelé. Je connaissais le but pour lequel je t'avais appelé. Mais toi, tu ne me connaissais pas. Je t'ai permis de faire ce que tu as fait. Pas pour que tu dises, c'est mon statut. Non. Pour que tu rentres dans certains milieux, parce que là-bas, ils ont besoin d'entendre ma parole. Oh, Jésus. Un qui a dit amen encore là. Ok. Je vais lui permettre de vivre des expériences douloureuses. Je vais lui permettre qu'il affronte le racisme, le rejet. Je veux qu'il affronte des expériences difficiles où les gens rejettent. Parce que je veux qu'il soit un témoignage vivant de ce que... Ce n'est pas parce qu'on a été rejeté qu'on doit rester dans la tombe du rejet. Je veux donc me servir de lui pour démontrer à sa génération que même quand on a été rejeté, même quand on a été abaissé, machin, on peut s'en sortir et puis rayonner quand même. Mais parce que tu vois, s'il ne passe pas par là, s'il n'est pas rejeté, s'il ne souffre pas ces trucs-là, là, il ne pourra pas, les gens ne le comprendront pas. Il faut qu'il passe par ce genre d'expérience parce que à travers lui, je vais enseigner les autres. Et lorsque les gens viendront me dire, ah, moi, ça va pas, ah, tu sais, la France est dure, je leur dirai, j'ai un témoin, regardez là-bas. Lui aussi, il a été rejeté, mais il n'est pas comme vous. Alors, Dieu dit, je sais que ça va faire du mal, je sais que ça va lui faire du mal, parce que personne ne prend plaisir à être rejeté. Mais j'ai une solution, je vais le visiter moi-même, je vais le guérir moi-même, et je vais l'enivrer de mon amour. Et plus personne ne saura le reconnaître quand je vais le travailler. Ça, c'est la préscience de Dieu. Ma forme est unique. Je suis passé par là où je suis passé. J'ai connu ce que j'ai connu. Mais Dieu était en train de travailler quelque chose. Ma forme est unique. Je ne ressemble à personne d'autre. Si tu comprends ça, tu vas tout faire. Commencer à prier pour dire, Seigneur, révèle-moi déjà. Enseigne-moi mon côté unique. Parce que la raison pour laquelle tu es frustré, c'est parce que tu essaies de prendre des choses à gauche, à droite. Tu regardes autour de toi au lieu de regarder en toi pour voir quels sont ces 5 critères lorsqu'ils sont mis en avant. Lorsque tu vas comprendre qui tu es, tu vois comment, il y en a qui vont commencer à démissionner de leur travail. Il y en a qui vont commencer à prendre des formations. Il y en a qui vont commencer à opérer des changements radicaux parce qu'ils vont décider de venir dans le moule que Dieu a préparé, sur mesure. Ce n'est pas à Dieu de se redimensionner, c'est à moi de me redimensionner pour rentrer dans son plan parfait. Il a dit les dons et les appels sont irrévocables, il ne change pas d'avis. Il ne change pas d'avis sur ce qu'il a décidé de faire. C'est à moi de changer et de venir m'aligner. Et quand je vais m'aligner pour rentrer dans son plan parfait, là je rayonnerai. Inclinons la tête et prions. Nous allons simplement prier, élever la voix quelques secondes juste pour dire, Seigneur, accorde-moi la grâce, avant même la suite de ce message, accorde-moi la grâce déjà de comprendre la forme que tu m'as donnée et de découvrir le modèle sur mesure et de pouvoir rentrer dans ce modèle. Ce que je dirai la semaine prochaine, ne sera pas une révélation pour toi. Ça sera juste une confirmation du cri que tu entendais déjà à l'intérieur de toi. Lorsque ton esprit te parlait, lorsque ta voix, la voix intérieure, la conscience te disait, mais tu n'es pas fait pour ce que tu fais. Mais tu ne devrais pas opérer comme ça. Ce n'est pas ta vraie nature. Ce que tu fais, c'est un boulet. Non, tu essaies de copier les dons des autres, mais tu méprises et tu sous-estimes ce que je t'ai donné. Tu es impressionné pour ce qui attire le regard, mais tu ne comprends pas que tous les dons ne sont pas forcément rayonnants. Mais il y a quelque chose que j'ai mis en toi, mais tu ne le regardais pas. Pourtant, j'essayais d'attirer ton attention. Seigneur, parle-nous dès aujourd'hui. Et accorde-nous la grâce de comprendre le modèle unique sur mesure que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Père, dans le nom de Jésus. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne pas quitter cette terre sans être rentré dans le moule. Parce que tu m'as fait comprendre que je n'ai pas le droit de choisir ma destinée. Ce n'est pas moi qui ai créé le monde. J'ai été créé en Christ, créé par toi, pour toi et en toi. Pour un but, Seigneur. Et la clé de la réussite, la clé de la destinée, c'est découvrir ce modèle unique, ce moule taillé sur mesure, cette forme unique, et d'embrasser, de me cadrer dans la forme que tu as préparée. Alors comme le poisson dans l'eau, je me déploierai avec majesté et je fonctionnerai avec grâce et puissance. Accorde-nous la grâce de comprendre. Et que cette parole que tu vas inspirer la semaine prochaine nous pousse à faire des ajustements, à changer, Seigneur, à oser quitter le statu quo, à oser quitter le modèle qui n'était pas le modèle original de Dieu pour revenir à ton plan parfait. Parce que tu nous as fait comprendre que notre capacité à régner dans l'éternité, le domaine dans lequel je dois régner dépend de la forme que tu m'as donnée. Tu m'as donné un battement de cœur émotionnel qui est différent de celui de mon frère ou de ma sœur. Je suis sensible à certaines choses. Accorde-moi la grâce de comprendre que ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a quelque chose que Dieu essaie de dire derrière. Il y a des gens vers lesquels il t'appelle. Il y a des peuples qui crient, il ne t'appelle pas vers tout le monde. Tu es passé par des situations douloureuses, blessantes, qui t'ont rendu amer. Et il dit, non, je savais que tu allais connaître ça, mais mon but, c'était de t'en livrer de mon amour, d'enlever toutes les blessures. Tu n'es pas passé par là où tu es passé par hasard. Non, il y a une tragédie après le divorce. Oui, il y a pas de tragédie plutôt. Il y a une vie après le divorce. Ce n'est pas une tragédie. Tu as connu ce que j'ai connu parce que j'ai un but. Il y a des types de personnes vers lesquelles je t'envoie. Je veux que tu rayonnes dans certains domaines. Pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines, tu dois rayonner.
Je dis oui.
Je dis oui. Je dis oui. Je veux sortir de là où je suis, Seigneur. J'accepte d'être délivré. J'accepte d'être restauré. J'accepte d'être renouvelé. Je dis oui. Tu brises ce que tu dois briser. Tu arraches ce que tu dois arracher. Tu déterres ce que tu dois déterrer. Tu plantes ce que tu dois planter. Une dernière fois, je dis oui. Tu fais ce que tu dois faire. Alors que je me livre à toi. Alors que je te dis, fais ce que tu veux. Je dis oui. Jésus-Christ, à ce modèle sur mesure, à cette forme unique. Je veux embrasser ma destinée. Régner, rayonner, resplendir sur terre. Et te célébrer pour ce que tu as fait de moi. Levons les mains dans sa présence. Je dis oui, Seigneur. Je n'ai jamais dit que j'étais capable. Mais je dis, j'en ai assez de ne pas être le vrai moi. Je veux être pas quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être quelqu'un, ni mon frère, ni ma soeur, ni un pasteur. Ni un chef d'entreprise, non, je veux simplement être le vrai moi. Il y en a assez de porter plusieurs rôles et de mettre des masques. Je veux simplement être ce que je dois être. Le modèle parfait que tu as prévu avant la fondation du monde. Si je suis ce que tu es, alors ton nom sera glorifié. Parce que le modèle que tu avais préparé aura pris forme sur terre. Ça, c'est la gloire de Dieu. Lorsque je remplis parfaitement les caractéristiques, lorsque je cadre parfaitement et je suis exactement ce qu'il m'a appelé à être, et lorsque je fais exactement ce qu'il m'a appelé à faire, alors là, Dieu est acclamé. Le monde regarde à lui et lui rend gloire et honneur pour avoir fait un tel chef-d'œuvre. Ça ne me monte pas à la tête parce que je reconnais que le chef-d'œuvre, c'est lui qui l'a fait. Et c'est lui qui m'a accordé la grâce juste d'entrer dans ce costume sur mesure. Lorsque je rentre dans ce plan, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas de misère. Non, ce n'est pas possible. Il y a uniquement le plan parfait de Dieu. Et je ne veux pas être un négociateur de ta volonté, mais je veux être un vrai adorateur. Quelqu'un qui t'adore en esprit et en vérité. Père, à toi qui as commencé en nous cette belle œuvre et qui la rendra parfaite, nous te supplions de nous instruire. Nous te supplions de nous enseigner. Les semaines prochaines, enseigne-nous avec puissance. Les semaines prochaines, ajuste-nous, redimensionne-nous. Taille là où tu dois tailler, émonde là où tu dois émonder. Ajuste là où tu dois ajuster. Mais Père, il faut que Christ en nous soit glorifié. Il faut que ton nom sur cette terre, à travers les vases que nous sommes, il faut que ton nom resplendisse du soleil levant jusqu'à son couchant. Suscite cette génération qui soupire après toi, qui te vit, qui te connaît et qui t'expérimente. Pas pour que nous soyons acclamés et populaires, mais uniquement pour que Christ soit révélé au monde. À toi qui as commencé cette belle œuvre et qui l'achèvera, à toi soit la louange, la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.